Le débat du jour. Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. Une île philippine paradisiaque et très touristique, entièrement fermée pour 6 mois, des photos de plages idylliques jonchées de détritus, des villes européennes en manque d'eau, des récifs coralliens en danger, des plongeurs qui se filment au milieu des sacs en plastique flottant entre deux eaux, des paquebots géants qui déversent leurs occupants dans des villes sur l'eau qui s'enfoncent dans le sable, et une industrie mondiale du tourisme qui continue à croître, plus 7% l'an dernier. Ce n'est pas terminé. Les spécialistes du secteur prévoient une augmentation importante du nombre de touristes dans le monde dans les années à venir. Le tourisme de masse est-il le pire ennemi de l'environnement? C'est la question du jour. Et pour tenter d'y répondre, deux invités nous ont rejoints dans ce studio. Rémi Knafou, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur émérite de géographie à l'université Paris 1 Sorbonne et vous avez créé et dirigé l'équipe de recherche mobilité, itinéraire et tourisme. Jean-François Rial, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes PDG de Voyageurs du Monde et membre du label ATR, Agir pour un tourisme responsable. C'est donc aujourd'hui que l'île philippine de Boracay Island ferme ses portes aux touristes pour 6 mois pour laisser le temps à l'écosystème de se régénérer. C'est la décision du controversé président Rodrigo Duterte qui l'a expliqué avec ses mots à lui, qu'on évitera de répéter ici. Si ça vous intéresse, vous trouverez ça facilement sur Internet. Le tourisme menace-t-il l'environnement? Et la dégradation de l'environnement menace-t-elle le tourisme? Rémi Knafou.
Alors, je ne sais pas si le tourisme menace l'environnement, mais l'homme en général menace l'environnement qui est le sien. Et la première victime, c'est l'homme et son environnement. Ce qui a fondamentalement changé, d'abord, lorsque l'homme intervient quelque part, il transforme l'espace. Bon, en particulier, les espaces touristiques ont été transformés, c'est toute l'histoire du tourisme, effectivement. Mais ce qui a fondamentalement changé, c'est que si je me réfère à ma propre histoire, dans ma toute première jeunesse, quand j'ai commencé à être touriste avec mes parents, il devait y avoir 25 ou 30 millions d'arrivées internationales dans le monde. Et on en a maintenant plus d'1,3 milliard, et encore, là, ça n'est que la partie émergée de l'iceberg, parce que le gros de la masse des touristes ne franchit pas des frontières.
Exact.
Et donc, les grandes masses touristiques aujourd'hui, même si historiquement c'était l'Europe, évidemment, c'est l'Asie maintenant. Ce sont les nouvelles classes moyennes chinoises, indiennes, qui, et c'est un bien, au fur et à mesure qu'elles aspirent elles aspirent au développement, eh bien elles aspirent aussi à accéder à du tourisme, à des loisirs. Et donc, tout cela pèse sur notre environnement.
Alors, Jean-François Rial, vous êtes spécialiste, vous, du voyage un petit peu sur mesure, hein, avec Voyageurs du Monde. Est-ce que, pour vous, pour votre organisation, l'environnement est quelque chose d'important pour vos clients? Est-ce que quelque part, le tourisme, s'il menace l'environnement, on va en parler pendant cette émission, est-ce que, quelque part, l'environnement, la dégradation de l'environnement menace le tourisme?
Bien sûr, mais ce qu'a dit le professeur est très très juste. Je dirais que toute l'économie mondiale doit être repensée avec un prisme écologique absolument indispensable. Le tourisme en fait partie, en premier lieu, parce que lui-même sera pénalisé si on ne le fait pas. Le tourisme de masse encore plus, évidemment, parce que il concentre énormément de touristes au même endroit et au même moment, donc crée des tensions écologiques très fortes. Mais le monde économique ne pourra pas perdurer dans un monde dans lequel on détruit une biodiversité délirante, on pollue les mers avec du plastique délirant. Tout ça n'est plus possible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je comprends pas que les politiques du monde entier ne mettent pas ça en agenda numéro un, parce que c'est extrêmement grave ce qui se produit, et le tourisme n'est qu'un des éléments de toute cette problématique. Mais je dirais qu'il est loin d'être le seul, loin s'en faut.
Alors, quels sont les environnements les plus abîmés, Rémi Knafou, à votre connaissance? On a tendance à se dire qu'avec le réchauffement climatique, le changement climatique, c'est l'environnement marin qui est le plus concerné par le tourisme, et tout ce qui est un peu au ras du niveau de la mer qui monte.
Oui. Bon, les littoraux, la mer, sont évidemment menacés. Depuis longtemps, mais ça n'est pas lié qu'au tourisme, parce qu'il se trouve qu'une grande partie de la population mondiale habite à proximité de la mer, des littoraux. C'est là que l'activité marchande, commerciale s'est développée, que les industries sont développées, et le tourisme vient ajouter une pression de plus sur cet environnement. Donc là, on a un environnement d'une grande fragilité, et comme l'a rappelé Jean-François Rial, le tourisme n'est qu'un élément perturbateur de plus, parce que c'est une des facettes de l'homme habitant la Terre.
Et vous savez, moi je vais vous raconter des anecdotes assez intéressantes, hein. On a été un des voyagistes les plus importants au Sahara. On n'y va plus pour les raisons évidentes de sécurité que vous connaissez. Il a fallu qu'on se batte contre les populations locales et les États locaux pour que tout le monde nettoie le passage des détritus générés par les touristes et leur encaillepagnement. Encore, il n'y a pas très longtemps, en Égypte, il a fallu que je me batte contre les gouverneurs de Luxor et d'Assouan pour les convaincre de permettre aux bateaux de dégazer sur les égouts à quai et non pas sur le Nil. C'est-à-dire qu'il faut avoir conscience que, bien sûr, il y a des industries touristiques qui font n'importe quoi, en particulier, par exemple, quand on regarde les émissions de CO2 et le gasoil dégagé par les gros bateaux de croisière, c'est juste impensable. Mais il y a aussi, de la part, malheureusement, de beaucoup de pays dans le monde, parce que leurs priorités sont ailleurs, parce que ils doivent assurer un développement économique qui permette plus de santé, moins de chômage à leur population, un regard très secondaire sur les aspects écologiques qui sont majeurs. Et il n'y a pas que les bords de mer qui sont touchés, il y a, je dirais, tout ce que j'appelle les tours Eiffel du tourisme. Toutes les tours Eiffel du tourisme.
Tous les endroits qui rassemblent les
exactement,
touristes.
Exactement. Mais même les endroits où il n'y a personne, vous avez des gens qui ont des comportements, y compris dans nos propres clients, parce qu'il n'y a pas que le tourisme de masse. Hein. Les clients de Voyageurs du Monde ne sont pas exonérés de comportements anormaux sur le plan écologique. Et certains hôtels de luxe ont des attitudes vis-à-vis de la gestion de l'eau, par exemple, par rapport aux ressources locales, qui ne sont pas acceptables. Donc tout ça, c'est global. L'île des Philippines, c'est un exemple intéressant. Bien sûr, il y a trop de touristes. Mais il n'y avait pas d'égout. C'est une blague. Alors, comment voulez-vous faire des hôtels sans égout? Est-ce que c'est les touristes les responsables ou est-ce que ce sont l'État philippin ou les hôteliers qui ont construit ça sans égout? C'est une blague.
Il y a un problème de réglementation ou de respect de la réglementation, Rémi Knafou?
Ah oui, c'est un sérieux problème. Mais encore faut-il que la puissance publique ait envie de réguler le phénomène.
Bien sûr.
Et il y a beaucoup d'endroits où elle est défaillante, ou alors il y a des intérêts qui sont contradictoires. Si je prends comme exemple un endroit dans lequel je me suis rendu il y a pas très longtemps, parce que ce sont les Cinque Terre en Italie, ces magnifiques villages accrochés sur la côte ligure.
Oui.
Voilà. Bon. Donc où brusquement il y a eu un afflux beaucoup plus important de touristes, notamment, semble-t-il, parce que il y a eu un reportage passé sur la télévision chinoise. Il y a un afflux de Chinois. Il y a eu aussi des croisiéristes qui sont venus s'y ajouter, etc. Et j'avais rencontré, il n'y a pas très longtemps, le président du parc national, puisque c'est aussi un parc national, et il souhaitait contingenter. Et il s'était allé assez loin, la presse avait repris l'idée de contingenter le nombre des touristes. Et évidemment, les intérêts socio-professionnels du tourisme, les hôteliers, les restaurateurs, etc. ont été vent debout et ça n'est pas passé. Donc il faut qu'il y ait une volonté puissante de la part des puissances publiques pour pouvoir réguler. Et puis il faut qu'il y ait aussi une éducation croissante du touriste qui est aussi un habitant de la terre, un consommateur.
Il faut inventer des façons d'organiser le flux touristique, de le réguler, Jean-François Rial.
Moi je pense beaucoup plus à ce qu'a dit le professeur. Je pense qu'on ne peut pas organiser des régulations de flux et dire certains ont le droit, certains n'ont pas le droit, en particulier avec l'argent.
C'est évidemment
et le
impossible,
prix.
Oui.
C'est possible, mais
pas souhaitable.
C'est pas très souhaitable.
Socialement correct.
On va trier par l'argent, ouais. On ne peut pas se raconter d'histoire. Par contre, nous, on essaye tous les jours d'expliquer qu'il faut voyager à contre-courant. C'est-à-dire que vous pouvez aller voir le Taj Mahal à un moment où il y aura beaucoup moins de monde. À certains jours, il y a beaucoup moins de monde. Vous pouvez aller en Inde, dans le Madhya Pradesh, où il n'y a pas un chat. Si vous voulez, on est passé de 30 millions, comme le professeur l'a dit, à 1,3 milliard de touristes en 50 ans. Mais il n'y a qu'un pour cent de la planète qui est visitée. C'est-à-dire que dans le Cantal, il n'y a personne. Dans le Madhya Pradesh, il n'y a personne. Dans le Kaukoland, il n'y a personne. Etc, etc, etc. Dans le Nouveau-Mexique, il n'y a pas grand monde. Il y a des endroits fabuleux sur la planète où il n'y a personne. Donc, il est urgent que celui qui voyage apprenne à voyager intelligemment. Parce que s'il veut apprendre des choses, comprendre ce qu'il va vivre, il faut qu'il évite de se retrouver dans une, comme je l'ai vu il n'y a pas très longtemps, dans les Vignanes à Cuba, dans la zone de production de cigares, où on se retrouve avec 17 bus, les uns à la suite des autres, dans une ferme. C'est pas sérieux. Alors qu'à 5 km de là, il y a des fermes où il n'y a personne.
Ça veut dire, Jean-François Rial, que c'est... finalement, c'est pas compliqué de trouver des endroits préservés pour organiser les voyages.
C'est très facile de trouver des endroits préservés dans le voyage. Ça n'empêche pas que tous ceux qui voyagent, qu'ils soient dans des endroits préservés ou non, doivent préserver la planète. Parce que le risque, c'est pas tellement de pas trouver des endroits préservés, c'est de les salir. Parce que malheureusement, quand on voit que le président Trump se fiche complètement du réchauffement climatique, quand on voit que la plupart des dirigeants de la planète considèrent que la perte de biodiversité n'est même pas un sujet pour eux, alors que ça peut peut-être mettre en survie la survie de l'humanité, franchement, on peut se poser des questions, quoi.
Alors, il y a plusieurs problématiques, Rémi Knafou, parce qu'elles sont différentes selon les endroits. Il y a même des villes, on parle souvent de Barcelone, qui est... complètement submergé par l'afflux de tourisme. Enfin bon, ça commence à faire beaucoup, où on commence à manquer d'eau. Et c'est pas forcément les mêmes problématiques que l'île de Boracay dont on parlait.
Non, mais le manque d'eau n'est pas uniquement lié au tourisme. De toute façon, c'est un problème récurrent en Méditerranée. Alors, ne parlons pas des îles de Majorque, etc., qui fait venir l'eau par bateau depuis fort longtemps, pour répondre aux besoins touristiques. Mais pour Barcelone, il a fallu détourner l'Ebre. C'est la population elle-même métropolitaine. Barcelone, qu'est-ce que c'est? C'est une très grande ville qui, en plus, a voulu devenir, ce qu'elle n'était pas il y a 50 ans, un lieu touristique. Elle a déployé beaucoup d'efforts pour ça. Elle a fait venir des croisiéristes. Et puis maintenant, certains que la mariée est trop belle, c'est-à-dire qu'il y en a trop. Mais ça n'est pas que de la démagogie. Je veux dire qu'il y a cette dimension-là aussi qui se joue, parce que derrière les refus du touriste, il y a le refus de l'autre, il y a de la xénophobie, il y a du populisme, on le sait. Mais il y a aussi des formes nouvelles de tourisme, des formes... La manière dont maintenant le touriste s'inscrit dans l'espace prend des formes tout à fait nouvelles. Parce que jusqu'à présent, le touriste, il allait dans des hôtels, dans des lieux qui étaient dédiés à l'accueil touristique. Mais de plus en plus, pour des raisons qui sont d'ailleurs par ailleurs tout à fait honorables, il veut rentrer davantage dans la connaissance de la vie de l'autochtone, etc. Et donc, il rentre de plus en plus dans les habitats les plus intimes. Et là, le phénomène Airbnb est très symptomatique, parce que c'est au cœur de l'habitat des autochtones que les touristes viennent pour rechercher à la fois un meilleur coût, mais une rencontre possible avec l'autochtone, si tant est qu'elle existe, bon, peu importe. De moins en moins, effectivement. Mais en tout cas, l'effet pervers, c'est que maintenant, le touriste est partout, alors qu'il ne l'était pas toujours avant. Parce que on dénonce certains lieux d'hyper-concentration touristique, le type Benidorm en Espagne, c'est cet urbanisme vertical qui, encore dans les années 90, la seule station de Benidorm faisait autant de nuitées que toute la Tunisie. Il faut imaginer ce que c'est. Mais en même temps, quand les gens sont là, d'abord, personne ne les oblige à venir là. S'ils viennent, c'est qu'ils trouvent aussi de l'intérêt à être là, parce que c'est des vies de société. Et ensuite, quand ils sont là, ils sont pas ailleurs. Et ça présente aussi quelques avantages, et notamment, ça permet à vos entreprises de pouvoir aller sur les bords.
Non, mais moi, je pense que celui qui voyage, celui qui nous entend, là, celui qui voyage, il est urgent qu'il voyage intelligemment, à contre-courant, hors des sentiers battus. Il peut aller à Barcelone quand il n'y aura personne. Il y a des moments où il n'y aura personne. Il n'est pas obligé d'y aller en même temps que tout le monde. Il peut aller dans d'autres zones en Espagne qui sont absolument sublimes. Vous savez, il y a autant d'Allemands qui vont en Espagne par an que de Français qui voyagent dans le monde entier. Comment voulez-vous que ce soit gérable? C'est pas possible. Forcément, au bout d'un moment, les Espagnols d'Alicante, de Majorque, et de Benidorm, ils en ont marre de voir des touristes allemands. Et ça génère de la xénophobie. Oui, évidemment. Évidemment, parce que c'est toujours pareil. Alors que si vous êtes bulgare, et que vous arrivez à Valparaiso, mais que vous êtes le seul bulgare de cette ville chilienne, vous allez être très bien accueilli, c'est certain.
Oui, mais en même temps, ils en vivent. C'est là qu'est le cercle vicieux.
Oui, mais je pense qu'il ne faut pas qu'ils en vivent de façon telle qu'ils génèrent des déséquilibres complets.
Oui, mais à Majorque, par exemple, c'est 80% de leurs revenus.
Oui, mais c'est pas bien.
Mais oui, mais c'est très difficile de sortir de ce type de situation.
Bien sûr, c'est comme en Tunisie d'ailleurs ou d'autres endroits.
Alors un des problèmes qui est souvent évoqué, il y a des problèmes majeurs, c'est la démocratisation du transport aérien et la très forte hausse du trafic. Est-ce que c'est là, Rémi Knafou, que le tourisme pèse le plus sur l'environnement selon vous, le rejet de CO2 des avions qui font des rotations, notamment en moyen courrier dans les pays européens?
Oui, les avions, ils sont pour beaucoup, effectivement, dans les rejets de CO2, d'où des politiques de rachat, etc. Mais Et quand même, ce qu'il faut rappeler, bon, même si c'est un vrai problème, que la plupart des touristes ne voyagent pas sur de longues distances. Le gros des flux touristiques dans le monde, y compris en Europe, c'est sur des courtes distances. Donc là, on parle, on met l'accent sur notamment tout ce qui est vols internationaux, transatlantiques, transpacifiques, etc. Mais c'est une toute petite minorité, encore pour l'instant, de la population, même si le trafic va en croissant rapidement. Donc les difficultés, elles sont encore bien pires à venir.
Alors, il faut compenser le coût carbone. Je crois que c'est quelque chose que vous faites au sein de Voyageurs du Monde, Jean-François Rial.
Oui, nous, on le fait. On le faisait.
Comment on peut faire ça, compenser ça?
On le faisait à 20, 25%, 30% les années passées. Maintenant, on est passé à 100%. C'est parfois critiqué en disant que c'est du greenwashing, que c'est s'acheter une bonne conscience. Je ne le crois pas du tout. À partir du moment où on absorbe l'équivalent du CO2 qu'on émet de façon certaine et de façon certaine additionnelle. Donc nous, on a les labels les plus élevés au monde sur les plantations de forêt sur lesquelles on met en place. On dépense à peu près un million et demi d'euros par an.
Vous plantez des arbres ça se passe exactement?
En fait, on s'est mis avec Livewood, qui est un grand fonds international, avec Hermès et avec Danone. Et on repère des endroits où on va replanter des arbres. Alors là, en général, c'est des mangroves, en l'occurrence, où on est certain. Bon, l'absorption de CO2 est certaine, ça, il n'y a pas de débat, mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'est d'être certain que si on l'avait pas financé, ça aurait jamais été fait. Donc, c'est additionnel.
Donc, c'est de la création.
Voilà, voilà. Mais les technologies vont évoluer là-dessus, j'espère, d'ici 20, 25 ans. Je dirais que le réchauffement climatique, c'est un problème majeur écologique du tourisme mondial, mais c'est pas le seul. La biodiversité, les déchets, le plastique, tout ça, ça c'est malheureusement pas lié à l'avion. Hein. C'est-à-dire que sur le CO2, bien sûr, l'avion est le principal émetteur, hein, c'est indiscutable, mais c'est pas le seul.
Alors, il y avait des propositions également pour réguler la visite de certains sites sensibles. Vous parliez des tours Eiffel touristiques à Angkor, par exemple, au Grand Canyon. Ça devient difficile d'y aller sur un coup de tête. Hein. Il faut réserver assez en amont. Il faut réguler le flux des touristes. Et c'est ce numerus clausus là, Rémy Knapou, ça peut être une solution pour vous?
Mais c'est une solution.
Apparemment, on se refuse encore à faire ça à Venise, mais bon, la question se pose. Hein.
Venise, c'est différent. C'est une solution possible dans des lieux fermés ou avec un gestionnaire. Après, c'est la responsabilité du gestionnaire de savoir à partir, parce qu'il connaît son site, il sait quelles sont les conditions de fonctionnement, quelles sont les conditions de conservation aussi du site dont il a la charge. Donc, un gestionnaire de site peut décider qu'à partir d'un certain seuil, il considère qu'il faut fermer. Bon, c'est ce qui est fait dans beaucoup d'endroits. À l'Alhambra, on ferme quand on a trop, etc. Bon. Donc ça, on sait faire dans les sites fermés. Les sites ouverts, c'est beaucoup plus compliqué. C'est ce que je disais à propos des Cinque Terre et Venise, c'est à une autre échelle, c'est le même problème aussi. C'est quand même un site ouvert. Donc après, on peut user de d'autres types d'arguments. On peut faire en sorte que les navires de croisière aillent plus loin, passent pas dans le canal principal de Venise. Voilà, à Santorin, on peut faire en sorte que qu'on limite le nombre de bateaux qui vont faire escale, etc. Donc tout ça, on peut le faire, mais tout ça demande quand même une vraie volonté politique et une prise de conscience qui est loin d'être partagée.
Sachant qu'il y a des pays comme le Bhoutan, la Namibie, le Botswana, qui ont gardé leur site ouvert, mais qui ont pratiqué des prix hôteliers tels que de fait c'est pas ouvert à tout le monde.
La sélection par l'argent dont on parlait tout à l'heure.
Et moi ça me choque pas du tout. Moi, je pense même que c'est une vraie solution, le site fermé, à condition que ce soit pas basé sur l'argent, mais que on régule les flux pour préserver les lieux, préserver leur histoire, éviter les dégradations. Moi, je trouve ça très bien, et que les gens réservent à l'avance la visite de Angkor ne me choque pas.
Merci beaucoup Jean-François Rial, et merci à vous également Rémy Knapou d'avoir participé à ce débat. Merci à toute l'équipe du débat du jour, Florence Ponce à la coordination, Laura Vicenzi et Gérard Perrault à la documentation et à la réalisation. Aujourd'hui, Victor Hull. Vous pouvez nous retrouver, nous réécouter, nous podcaster sur notre site internet www.rfi.fr et sur les plateformes mobiles, avec notamment l'application RFI Pure Radio, rubrique magazine. Prochain débat demain, même heure, même endroit. Bonjour chez vous.